l'artichaut.
C'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art.
Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans l'artichaut.
Bonsoir Malo, bonsoir tout le monde. Bisous, bisous.
Bisous, bisous. Ça va bien, Carotte?
Oui, comme tout le monde. Hein, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai demandé j'ai fait une requête en demandant débaptisation. Pour sortir de cette pédocriminalité catholique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je cherche toujours des façons d'euthanasier en rigolant. Ça, c'est dans ma pharmacie. Et puis, j'ai surtout travaillé sur notre nouveau artichaut, n'est-ce pas ? Alors, comme il paraît que c'est les réjouissances pour Journée de la Femme, Semaine de la Femme, Mois de la Femme, Année de la Femme, Ère de la Femme. Donc, comme on devait parler des femmes, j'ai décidé de parler de Gilbert et Georges.
Pourquoi on devait parler des femmes ?
On ne devait pas parler des femmes, mais c'est parce qu'on est dans la mouvance hommage aux femmes.
Ah, d'accord.
Alors, je vais faire un hommage aux femmes en parlant d'un couple d'hommes.
Très bien.
Alors, c'est donc Gilbert et Georges.
Gilbert et Georges, d'où nous viennent-ils,
Gilbert? Alors, Gilbert et Georges, ils sont fabuleux. Donc, Georges, c'est celui qui a les lunettes. Gilbert, c'est le plus petit. Georges est né en 42 en Angleterre. Gilbert est né en 43 dans les Dolomites italiennes.
Oh yeah.
Yes, ils se sont rencontrés en 67, l'année de ma naissance, durant leurs études en sculpture à la St. Martin School of Art de Londres. Et dès qu'ils se voient, c'est à la fois la vie qui les jette dans les bras et dans l'art l'un de l'autre. Et à partir de 67, ils ne vont plus se quitter. Donc en 69, ils vont faire leur première apparition publique comme des sculptures vivantes, living sculptures, et les single sculptures. Et en fait, ils sont en costume, ils ont le visage et les mains maquillées comme s'ils étaient en sculpture de bronze. Et puis, ils font des petites pantomimes de danse sur des chansons. Et ils décident en fait d'être des sculptures vivantes. Alors, c'est génial parce que c'est des sculptures vivantes humaines. Et en plus, ils sont deux, comme une paire, quoi, mais les deux font la paire. Mais en fait, ils se considèrent comme une seule et même personne, un seul et même artiste. Et du coup, leur travail, dans leur travail, on ne peut pas savoir qui a fait quoi. C'est pas du tout comme la coopérative des Malassis ou une coopérative d'artistes où on revoit la patte, celui qui est le bon dans les écritures, celui qui est le bon dans les paysages, celui qui est le bon dans les portraits. Non, 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 non. Là, ils font tout ensemble, comme s'ils avaient deux têtes et quatre mains et quatre pieds, quoi. Voilà. Donc, ils ont un... Ils sont fabuleux parce que, ils sont dans Londres, ils sont en couple, donc on parle jamais, on s'en fout de leur sexualité puisqu'ils sont une seule et même personne. Et quand ils étaient petits, quand ils étaient à l'université, il y avait eu un entretien avec une critique qui s'appelle Lyle Barber et elle avait demandé ce qu'il voulait être quand il serait grand. Et en fait, Georges voulait devenir un super clochard. Tu vois, c'est fabuleux. Donc, ils sont dans une dynamique de faire comme tout le monde. Et du coup, leur art les propose dans des situations de comme tout le monde, mais à deux et toujours dans leur petit costume. Et du coup, ça va faire comme vraiment une originalité parce que déjà, c'est des performeurs. Donc, il faut voir qu'ils sont super aussi à l'aise dans tout ce qui est la mise en scène d'eux-mêmes. Et dans ces années-là, en fait, c'est la première fois qu'on voit des trucs. Là, aujourd'hui, je te dis human sculpture, tu vois, t'imagines la personne qui fait la fausse statue de la liberté à Paris, tu vois, ce genre de trucs, ces pantomimes-là qu'on connaît maintenant. Mais bon, à l'époque, on n'avait jamais vu ça. Alors, du coup, moi, j'avais vu leur exposition en 97 au Musée d'art moderne de Paris et je m'étais chopé ce petit bouquin que tu vois là. Et du coup, j'ai décidé de vous transcrire l'interview qui est dans ce petit livre avec toutes leurs œuvres principales. Parce qu'à cette expo de 97, il y avait plus de 102 de leurs œuvres. Donc moi, je suis tombée par terre parce que déjà, c'est très, très grand. Donc tu te prends ça plein dans la figure. Et en plus, c'est très provocant, c'est très psychédélique, c'est ultra moderne. Et c'est ultra simple. Alors, je vais commencer à vous lire. J'ai donc sélectionné des petits extraits. Donc, je vous dis pas Georges a dit ça ou Gilbert a dit ça. Je vais lire en continu, puisque c'est une seule et même personne. On travaillait déjà ensemble avant même d'en prendre conscience. C'est quelque chose qui nous est tombé dessus. À notre avis, plutôt qu'une chose concertée. Nous pensons très souvent, même quand nous travaillons sur des projets pour de nouvelles images, que, d'une certaine façon, quelque chose a guidé notre main pour réaliser tel projet. Est-ce qu'on a vraiment fait ça ? Qui nous a fait faire ça ? Qui nous a fait dire ça ? Nous pensons vraiment qu'il existe quelque chose qui nous dépasse, quelque chose d'extérieur à nous, une sorte de force. Sinon, nous ne ferions pas des œuvres comme celle-là. Nous ne ferions pas consciemment Naked Chic Pictures. Nous y sommes en un sens contraints. Alors, il faut imaginer quand même avant, mais j'irai te montrer, si tu tapes Gilbert et Georges sur ton truc et que tu fais dessin, parce qu'au départ, leurs œuvres monumentales, elles sont faites que de multitudes de dessins des panneaux, genre de 10 par 10. Et c'est des dessins au crayon. Donc au départ, ces gars-là, c'est des super bons dessinateurs. Nous nous sommes donc entraînés. Entraider. Je crois que c'est toujours de cela dont il s'agit aujourd'hui. Je crois qu'on ne se sent complet que lorsqu'on est ensemble.
C'est beau ça.
Deux personnes, ça fait une composition. Une seule, non. Une personne isolée aurait juste l'air d'un crétin d'artiste. Nous disons toujours que le fait d'être deux efface notre doute sur nous-mêmes. À deux, on ne peut jamais douter de soi. L'artiste ordinaire, lui, se pose constamment des questions. Il s'assied en face de sa toile et se demande « Est-ce que je dois ajouter une autre vache verte dans le coin ? Est-ce que je dois changer la couleur du ciel ?» Et bien sûr, il n'obtient pas de réponse. Tandis qu'à deux, on a toujours une réponse. Le doute sur ce qu'on fait disparaît complètement. Aussi longtemps que l'autre répond « oui », et nous nous disons toujours « oui » l'un à l'autre. Je crois que nous partageons une formidable motivation. C'est notre plus grande force. Nous sommes plus concernés par cela que par n'importe quel détail. Je crois, vous savez, qu'on ne s'intéresse à rien d'autre. Je n'ai aucune autre passion. Je ne m'intéresse pas à l'argent, à rien d'autre. Alors finalement, ça devient très facile de se concentrer complètement sur cette vision. Nous pouvons être seuls ensemble, je crois. C'est ce qu'il y a de meilleur. Tandis qu'on ne peut pas se sentir seul avec des amis. On ne se gêne pas, nous, l'un l'autre. On peut donc être seul, comme une personne isolée est seule. Je veux dire qu'on peut être seul avec certains amis, mais que c'est très rare. En général, on a l'impression que les autres attendent quelque chose et on ne se sent pas vraiment libre. Et en fait, les autres attendent sans arrêt quelque chose de vous. Et puis on boit trop, on ne peut pas vraiment se relaxer. On ne peut vraiment se relaxer qu'avec très peu de gens. La plus grande des chances, bien que ce soit aussi très, très éprouvant, c'est que ça exige d'énormes efforts. C'est de travailler avec la personne à laquelle on est personnellement attaché. Ça peut être extrêmement enrichissant. Mais c'est aussi une immense difficulté. Ça résout beaucoup de problèmes si on y parvient, bien que ça puisse aussi en créer. Mais nous, on en a accepté les conséquences dès le départ. En fait, nous n'avons jamais travaillé ensemble. C'est la différence essentielle. On n'a jamais vraiment collaboré. Je veux dire, dans ces collaborations auxquelles vous faites allusion, l'un fait une certaine chose, l'autre en fait une autre, et les deux s'unissent, et ils mettent ensemble leurs talents respectifs dans un but précis. Non. Il ne s'agit pas du tout de ça dans notre cas. On n'a jamais le sentiment de réaliser une œuvre ensemble de cette façon-là. Oh oui, ça a cessé il y a très longtemps. Ça a cessé le jour où deux ou trois personnes ont déclaré à notre propos « Oh là là, ça ne pourra jamais durer, travailler comme ça à deux, ça ne pourra jamais marcher. » Mais en fait, cela nous a rendus très, très, très déterminés. Et nous avions besoin l'un de l'autre. Nous en avions besoin parce que chacun de nous se sentait incomplet. Nous ne nous considérons pas comme deux artistes. Nous nous considérons comme un seul et même artiste. Nous avons inventé une technique artistique qui, formellement, n'opère pas de distinction entre nous. Il n'y a pas de touche visible. Il n'y a pas trace de cette signature dont chaque artiste est si fier. Nous avons toujours affirmé vouloir créer des images qui jaillissent hors de notre cerveau exactement comme un rayon laser. Et ça, c'est vrai, hein, ça fait vraiment l'effet d'un rayon laser.
Effectivement, oui.
Alors au départ, ils étaient dans des tonalités grises et noires, et puis au fur et à mesure des années, la couleur a pris le dessus, le psychédélisme a pris le dessus, une certaine forme d'anarchisme. Alors, les dessins sont au départ composés de feuilles de carnet de croquis. Et donc, alors là, c'est le gars qui les interviewe. Donc, avez-vous travaillé ensemble sur la même feuille ou bien chaque feuille a-t-elle été réalisée par un seul de vous ? Oh non, 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 mais nous avons assemblé les feuilles pour obtenir la pièce qu'on désirait. Nous les avons collées avec du papier brun pour obtenir une pièce de 2 mètres par 3. Et en même temps que vous y travaillez, effectivement, bah non. D'abord, nous tenions à la main l'image en négatif. Et dans la main qui ne tenait pas le fusain. C'était une image qui était coupée au carré. On les a exécutés extrêmement vite, en 2 ou 3 heures chacun. On travaillait l'un par-dessus la tête de l'autre. Simplement pour les finir. On ne s'intéressait pas à leur exécution en soi. Mais on n'aimait pas leur aspect neuf. Aussi, on les salissait avec des bassines de permanganate. On les a même essorés à la main. On les repassait après. Comme tu as dit, pour leur donner l'air d'avoir toujours existé. Alors le gars, il leur demande « Mais si vous aviez disposé alors de techniques que vous avez développées plus tard, ces dessins auraient-ils été réalisés sous une forme photographique ?»« Ah ben oui, si nous avions disposé de la technique et de l'argent, mais nous n'avions ni la technique et ni bien sûr les moyens financiers. » Lorsque vous avez commencé à travailler sur les scènes de beuverie, les premières pièces n'avaient pas de structure en grille. Oui, c'est vrai, elles prenaient différentes formes. Une silhouette, un rectangle, un cercle, un ovale, quelque chose en train de tomber, une vastika. Finalement, on tâtonnait. Il nous a fallu beaucoup d'années pour aboutir au rectangle traditionnel. Mais à ce moment-là, dans les années 72-73, je crois que l'ivresse a pris le dessus. Et c'est ça qui nous a conduit à travailler sur la boisson. Pour la première fois, on avait un peu d'argent et on buvait beaucoup. On fréquentait beaucoup les soirées. Nous avons pris la boisson comme motif et comme contenu. Nous avions alors des amis artistes qui buvaient avec nous et qui se levaient le lendemain matin pour peindre ces effrayants tableaux abstraits, froids et très sobres. Nous trouvions ça parfaitement déloyal, contraire à la réalité, malhonnête. Pourquoi ne pas faire de l'alcool le sujet de l'œuvre ? Tout le monde se saoule, tout le monde comprend l'ivresse. Même dans les pays où il n'y a pas d'alcool, il existe d'autres formes d'ivresse. Je dois dire que l'alcool nous a submergés d'une certaine façon, nous a désespérés. C'est pour ça qu'on a utilisé des titres comme « Imprisoned », des titres de ce genre-là. Et puis on a fait « Dark Shadow ». Bon, donc on voit quand même qu'ils vont au fond des choses sans arrêt. Et puis qu'il y a beaucoup, énormément de poésie et d'humour là-dedans. Mmh. Nous voulons geler la pensée, arrêter le temps, figer un moment de perception. Je crois qu'il existe deux sortes d'artistes. Nous avons toujours dit que nous n'aimons que ceux qui traitent vraiment de la vie humaine, pas ceux qui peignent une toile qui n'a rien à voir avec eux. Je ne suis pas très claire, Georges ? Eh bien, il y a l'artiste qui travaille pour lui-même et celui qui veut se construire une vie agréable, peindre de bonnes toiles, susciter le respect, posséder une belle villa de vacances, avoir des amis sympathiques, faire de bons repas. Le contraire de ceux qui arrachent l'œuvre de leur tripe pour la coller au mur et qui se détruisent dans ce processus. Courir le risque de se détruire, c'est pour un artiste la façon d'obtenir une chose si authentique qu'une dame pourra vous arrêter dans la rue et se mettre presque à pleurer en vous parlant d'une œuvre que vous aviez presque oublié avoir jamais créée. C'est tomber dans le vrai. Nous nous souviendrons toujours qu'à Baltimore, une femme est venue vers nous pour nous dire que Black Church Face, le titre d'une des images, exprimait l'égarement d'une façon si extraordinaire que ça pourrait traiter d'un événement éloigné de milliers de kilomètres ou même d'une trentaine d'années, mais qu'elle se sentait, elle, intimement touchée par cette œuvre. Un artiste heureux ne peut pas atteindre cette femme. L'artiste est cela, l'artiste est la toile. Nous devenons cela, des sculptures vivantes. Nous ne voulons savoir qu'une seule chose, c'est que nous nous trompons. Si vous vous trompez, alors là, vous avez une chance. Si vous vous trompez avant même de mettre le pied à l'atelier, alors là, vous êtes sur la bonne voie. C'est vrai, quand on sait qu'on a tort, c'est fantastique. Nos recherches personnelles nous ont amené à comprendre que personne n'a jamais créé une grande œuvre d'art, ni écrit un bon roman, simplement parce qu'il savait comment s'y prendre. Il n'y a que les gens qui ne savent pas comment faire les choses qui y parviennent vraiment.
C'est beau, ça, c'est très inspirant, hein, très motivant.
C'est fou, hein, non, mais c'est génial. C'est exactement comme de parler. On dit une chose et puis une autre. Les significations sont doubles. Le discours n'est pas linéaire. Il y a confusion dans la pensée. Et nous, on adore ça. Les doubles sens, c'est tout ce qu'on cherche. On accepte tout. On accepte les fleurs et la merde. La totalité de chaque chose. Quoi que l'on fasse, c'est bon. Et d'abord, qui sommes-nous pour décider ce qui est bien et ce qui est mal ? Alors qu'on fait les choses complètement à l'aveuglette, qu'on fait confiance à ce qu'on ressent, à notre sentiment le plus intime, totalement. Nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes en fait jamais conscients. Il faut que nous soyons dans un état totalement bizarre, défoncé, bourré, vidé. On ne se dit pas « Quelle image allons-nous créer aujourd'hui ?» Mais quelle idée idiote ! Et qu'est-ce qu'on ferait ? Des arbres avec des singes ou bien ? Je peux même pas l'imaginer. Non, c'est très simple. Nous essayons toujours de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Pas de façon consciente. On se laisse guider. On ne sait pas comment ça se terminera. En fait, on ne sait rien. On se laisse aller. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et puis, on accepte le résultat. C'est vrai, comment pourrait-on choisir entre les images ? Ce serait impossible à ce stade-là. Ce serait totalement arbitraire. Nous ne pouvons pas détruire nous-mêmes des images. Les professionnels n'ont pas encore pleinement évalué l'énorme soif d'art qui existe. Ils sont heureux s'ils font 200 ou 300 entrées par jour dans un musée. Si 2% de la population va voir une exposition dans un musée, ben alors ils sont satisfaits. Nous, on trouve ça idiot. Nous sentons, d'après l'expérience que nous avons des gens, et à qui nous parlons dans la rue ou ailleurs, qu'ils souhaitent en fait un art plus complexe. Vous savez, la vie est incroyablement difficile pour beaucoup de gens. Ils ont des problèmes de famille, de drogue, d'argent, d'éducation, de logement, enfin bref, tout le monde doit faire face à des désastres incroyables dans sa vie. La religion, l'alcoolisme, l'islamisme, le christianisme, la prison, tout ça, ça rend la vie extrêmement compliquée. Chacun des chers petits passants qu'on croise dans la rue abrite une vie incroyablement compliquée. C'est difficile. Et ils ne peuvent pas faire un peu de tri dans leur chère tête qu'en lisant un roman, qu'en voyant les tableaux. Et ils ont besoin de se relier à quelque chose, de se comparer, pour pouvoir s'évaluer eux-mêmes. Ils ne veulent pas d'un art simple.
Personnellement, j'adore l'artichaut. Cette émission qui parle d'art.
Nous pensons vraiment qu'avant cela, nous ne faisions qu'expérimenter. Et puis un jour, alors qu'on sortait ensemble, quelqu'un s'est dit, on s'est dit en fait, nous sommes l'art. C'est un peu après que nous nous soyons installés à Fournier Street que nous avons décidé que nous serions à la fois le sujet et l'objet. Et je crois que c'est bien la meilleure invention que nous ayons jamais faite. Et après, ben, tout a suivi. Nous avions pris une décision, tout comme un peintre se dit que la chose la plus importante, c'est la forme. Pour nous, l'essentiel, c'était nous-mêmes, en tant qu'objet, nous adressant au monde. On avait pris une décision, c'est pour cela qu'on a commencé à téléphoner partout, à écrire des lettres, à faire des dessins. On s'adressait au monde au moyen de courtes lettres, de petites vidéos. On laissait des dessins derrière nous, partout. On essayait de se placer au centre de l'attention. Nous sommes devenus l'objet. Et par la suite, nous avons compris que c'était assez limité. Peut-être ne pouvions-nous être que the singing sculpture. Ce qu'on pouvait réellement dire au monde était assez limité, sauf en dansant. Aussi, nous avons découvert cette forme artistique qui allait nous placer au cœur des images qui, elles, étaient illimitées. En fait, nous n'y avons jamais pensé en termes d'autoportrait, pas du tout. De toute façon, pendant des années et des années, nous ne prenions que des images l'un de l'autre. Donc, il ne peut pas s'agir d'autoportrait. Nous, nous sommes l'œuvre. Nous sommes les objets, le modèle, la dame nue. Nous sommes la dame nue. Tous les artistes ont toujours désiré ça, de toute façon. Oui, mais ils ne l'ont jamais vraiment fait. Ils restent encore devant leur toile. Nous ne sommes pas devant la toile parce que nous sommes la toile. C'est ça la grande différence. Et oui, donc le journaliste leur demande est-ce que leur rapport de l'un à l'autre est un peu télépathique. Et il dit oui, c'est en partie télépathique, ça j'en suis sûre. On a simplement en commun le même genre d'expérience, le même genre d'instinct. S'il fallait que les idées rebondissent de l'un à l'autre, alors on se battrait, ce serait épouvantable. On est toujours basé sur un certain nuage devant nous vers lequel on va. Un certain nuage. La forme qu'il prendra n'a pas besoin d'être définie de façon détaillée. Mais aussi longtemps qu'on va dans cette direction, ça convient. À ce moment-là, tout est très ouvert. Seules certaines choses sont vraiment importantes. Le reste n'a absolument aucune importance. L'essentiel, c'est que notre art reste tellement humain, tellement enraciné dans la vie, qu'il ne se fonde pas sur l'art. Nous avons pris une grande décision il y a bien longtemps. Nous sommes l'œuvre, mais avec nos faiblesses et avec tout, avec toutes nos complications. C'est ça qui est important. Nous ne sommes pas l'œuvre seulement quand nous sommes brillants. Nous la sommes en tout. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que nous acceptons tout dans cette forme qui est devant nous. Bon ben voilà, je crois que je vous ai tout lu. Je voulais finir par ce que notre art signifie. Donc c'est à la fin de mon petit bouquin génial, c'est trop beau. Alors ce que leur art signifie, ben déjà l'art pour tous. Nous voulons que notre art dépasse les barrières de la connaissance et s'adresse directement aux gens pour leur parler de leur vie et non de leur connaissance de l'art. Le XXe siècle porte la malédiction d'un art qui ne peut être compris. Les artistes décadents ne sont compris que d'eux-mêmes et de quelques élus. Ils se moquent et ils rejettent le profane. Nous affirmons que cet art, obscur et indéchiffrable, et qui est obsédé par la forme, est une décadence et un rejet cruel de la vie des gens. Le progrès par l'amitié. Notre art est l'amitié qui se lie entre nos images et le spectateur. Chaque image parle d'une vue particulière que le spectateur peut étudier à la lumière de sa propre vie. La vraie fonction de l'art, c'est d'amener à une nouvelle compréhension, une avance, un progrès. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a place pour une amélioration. Un langage pour le sens. Nous avons inventé et nous avons cessé de développer notre propre langage visuel. Nous voulons la forme moderne la plus accessible qui soit pour créer des images modernes visuelles les plus parlantes de notre temps. La matière première de l'art doit être subordonnée au sens et au but que s'est fixé l'image. Si nous créons des images, c'est pour changer les gens et non pour les féliciter sur ce qu'ils sont. Les forces de la vie. L'art véritable vient des trois principales forces de la vie qui sont la tête, l'âme et le sexe. Dans notre vie, ces forces s'agitent et se meuvent selon des arrangements toujours différents. Chacune de nos images est une représentation figée de l'un de ces arrangements. Le tout. Quand un être humain se lève le matin et décide ce qu'il va faire et où il va aller, il trouve une raison ou une excuse à poursuivre son existence. Nous, artistes, n'avons que cela à faire. Nous voulons apprendre à respecter et à honorer le tout. Le fond de l'humanité est la source de notre inspiration. Nous défendons chaque jour les bonnes traditions et les changements nécessaires. Nous voulons découvrir et accepter tout ce qui est bon ou mauvais en nous. La civilisation a toujours dépendu du progrès de celui qui donne. Nous voulons répandre notre sang, notre matière grise et notre semence dans notre recherche à vivre de nouveaux sens et buts à donner à notre vie. Gilbert et Georges, 1986.
Donc, ils sont encore en vie, ces petits bonhommes.
Ouais, ils sont encore en vie à fond. Ils continuent à délirer. Là, je pense qu'il va de nouveau y avoir. Ben là, la dernière rétrospective, elle était en 2019, mais je pense qu'on va ressortir leur truc. En tout cas, allez voir ce qu'ils font et prenez-vous leurs photos en plein dans la tronche le matin parce que ça fait du bien. Voyez la merde, voyez les fits fucking, voyez les tout nus, voyez tous leurs copains et surtout prenez notion aussi de la dimension de l'œuvre parce que les panneaux sont géants. Et prenez aussi une notion du fait qu'avant de passer à l'ère numérique, donc en fait, ils ont changé leur technique en 2003, où là, franchement, la forme justement qu'a pris leur art a été servie par la technologie et la photographie. Donc maintenant, c'est facile pour eux parce que l'ère du numérique sert leur art de manière absolue. Mais avant, ils faisaient ça au crayon de bois, sur crayon de papier, sur des feuilles en papier, quoi. Donc chapeau, bravo, ces deux originaux merveilleux. Ils sont les seuls, à mon avis, qui sont comme ça. Alors nous en France, on a un petit couple aussi d'artistes qui a eu pas mal eu de succès dans les années 80-90. Donc c'est Pierre et Gilles. Alors eux, c'est des photographes qui font surtout des pochettes d'albums ou des pochettes d'illustrations de revues. D'un côté très iconique et très kitsch, donc ils ont fait des trucs pour Dalida ou Étienne Dao, et ils refont ensemble à la main les décors super kitsch dans lesquels ils vont prendre la star en photo, toujours de manière très disco, en fait, on va dire. Mais ils n'ont pas du tout ni la puissance, ni le charisme, ni la provocation qu'ont Gilbert et Georges, qui sont... d'une solidité, c'est-à-dire que vraiment là, leur art, au travers de leur couple, des dualités du couple, du fait que c'est voilà un couple d'hommes dans un monde qui a été bafoué, ils se sont chopés aussi le sida de plein fouet. Donc aussi, on voit l'évolution dans leur art, on voit aussi les différentes époques qu'on a tous en fait ensemble traversées. Et il y a chez eux une forme de fraîcheur et d'humour, en fait, tu sais, qui est assez british. Il y a un côté, ils sont super british, mais à la fois universel. Et ils sont merveilleux. Voilà, ces deux petits vieux aujourd'hui, vraiment merveilleux. Donc intéressez-vous à eux, Gilbert et George. Et quand vous n'avez pas trop le moral, allez les voir ou allez les écouter parce qu'ils sont vraiment trop drôles. Et donc pour finir en poésie et en tendresse, j'aurais bien voulu la petite chanson que tu nous mettes, Bourville, la tendresse. Et voilà, c'est pour finir en
pourquoi
beauté.
Pourquoi le choix de cette chanson pour cet épisode? Tu saurais nous le dire?
Ben, parce que c'est tout simplement émouvant. C'est noir et blanc comme les premiers dessins de Gilbert et Georges. Ça parle de tendresse, ça parle d'amour. Et je trouvais que ben, pour aujourd'hui, pour essayer de résister à tout, ben, voilà, se rappeler à l'amour,
de
à
l'amour,
la tendresse
et, de la tendresse,
et à l'échange.
C'est grave. Merci beaucoup pour cette nouvelle artichaut, pour ce nouvel artichaut, pour nous permettre de découvrir encore et encore des artistes inspirants et drôles, là pour le coup atypiques, tout ça, tout ça. Et donc Bourville, la tendresse
oui,
sur RDOA, ta petite suggestion.
Eh ben, merci mes petits chéris, eh ben, la semaine prochaine, des bisous à tous, courage.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.